Vous écoutez, on lit pour vous.
La Chine présente-t-elle la menace que prétend Trump dans l'Arctique ? Un texte de l'AFP, publié le 13 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles. Auteur non précisé. Le président Donald Trump répète à l'envi que les États-Unis mettront la main sur le Groenland, territoire autonome du Danemark, pour contenir les avancées de la Russie en Arctique, mais aussi celles moins flagrantes de la Chine. Au-delà de la Russie, qui possède un immense linéaire de côtes arctiques, l'AFP a examiné la véracité des propos de M. Trump sur la présence de la Chine, dont le point le plus septentrional se situe à environ 1500 km du cercle arctique. Les experts suggèrent qu'en réalité, la Chine reste pour l'instant un acteur marginal, même si elle a accru ses activités ces dernières années. Des bâtiments chinois partout ? On voit des destroyers et des sous-marins russes et des destroyers des sous-marins chinois un peu partout, affirme M. Trump. Le Groenland ne grouille pas de navires chinois et russes, c'est absurde, dit Pål Sigurd Hilde du Norwegian Institute for Defense Studies. Dans d'autres parties de l'Arctique, la présence militaire chinoise, certes modeste, s'est accrue en collaboration avec la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le seul moyen pour la Chine d'acquérir une influence significative dans l'Arctique passe par la Russie, son voisin, dit Sigurd Hilde. Les deux pays ont intensifié leurs opérations conjointes dans l'Arctique. Des bombardiers russes et chinois ont mené en 2024 une patrouille commune à la jonction entre les continents asiatiques et américains, non loin de l'État américain de l'Alaska. La Chine opère quelques brise-glaces équipées de mini-sous-marins de haute mer, capables de cartographier les fonds, des repérages potentiellement utiles à des fins militaires. Elle opère aussi des satellites d'observation de l'Arctique. Pékin assure que ses visées sont scientifiques. Une influence grandissante ? Ces agissements constituent des préoccupations potentielles en matière de sécurité si l'armée chinoise ou des entités liées à l'armée établissent une présence régulière dans la région, dit Elena Lagarda du Mercator Institute for China Studies à Berlin. La Chine a l'ambition claire d'étendre son empreinte et son influence dans la région, qu'elle considère comme un théâtre émergent de compétition géopolitique, déclare-t-elle. La Chine a lancé en 2018 son projet de route de la soie polaire, déclinaison arctique de son initiative transnationale d'infrastructure, et ambitionne de devenir une grande puissance polaire d'ici à 2030. Elle a établi des stations de recherche scientifiques en Islande et en Norvège. Des entreprises chinoises ont investi dans des projets tels que le gaz naturel liquéfié russe et une ligne de chemin de fer suédoise. Cependant, la Chine se heurte à des résistances. Des projets d'achat d'une base navale abandonnée au Groenland et d'un aéroport en Finlande ont avorté. Le Groenland a renoncé en 2019 à utiliser les équipements de Huawei pour ses réseaux 5G. La Chine investit massivement en revanche dans les ressources et les ports sur la côte septentrionale de la Russie. Quelles ressources ? Le Groenland possède les 8e plus grandes réserves mondiales de terres rares, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. La Chine domine de loin l'extraction, la séparation et le raffinage des terres rares dans le monde. Mais ses efforts pour exploiter la manne groenlandaise n'ont eu qu'un succès limité. Le gouvernement groenlandais a stoppé en 2021 un projet impliquant la Chine autour d'un important gisement à Knefjell pour des raisons environnementales. Un intense lobbying américain a débouché sur la vente en 2024 d'un autre gisement à une entreprise new-yorkaise. On craignait il y a une dizaine d'années au Danemark et aux États-Unis que des investissements miniers représentant plusieurs fois le PIB du Groenland n'entraînent une influence chinoise, mais ces investissements ne se sont jamais concrétisés, observe Jasper Willing-Zersen, professeur associé à l'université d'Aalborg au Danemark. Aujourd'hui, les réticences à s'engager sont fortes du côté chinois parce que le coût diplomatique est devenu trop élevé. Quelle route empruntent les navires chinois ? La route de la soie polaire vise à relier la Chine et l'Europe via les routes arctiques, de plus en plus accessibles avec la fonte de la glace. La Chine et la Russie se sont entendues en octobre pour développer la route maritime du Nord le long de la frontière nord de la Russie. L'an dernier, un navire chinois a atteint la Grande-Bretagne en 20 jours via l'Arctique, soit deux fois moins de temps que par la voie habituelle du canal de Suez. Mais la route du Nord reste dangereuse et coûteuse, et des navires chinois ne l'ont empruntée que 14 fois en 2025, principalement pour transporter du gaz russe. La route maritime du Nord ne passe pas par le Groenland. Elle peut donc difficilement justifier les affirmations de M. Trump sur la présence chinoise le long de ses côtes. Il n'existe aucun signe d'activité militaire chinoise dans ou autour de la partie arctique du Groenland, dit Jesper Willingshausen. On a beaucoup de mal à identifier un véritable problème sécuritaire, dit-il. C'était « La Chine représente-t-elle la menace que prétend Trump dans l'Arctique ?» un texte de l'AFP, publié le 13 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles.
Semer la discorde, un texte d'Émilie Nicolas paru le 29 janvier 2026 dans Le Devoir. Il n'y a pas de règle pour ICE. On est dans le chaos. Je parlais dernièrement avec Toussaint Morrison, artiste, activiste et journaliste indépendant de Minneapolis. Toussaint était au cœur de la réponse locale à la mort de George Floyd en 2020. Les manifestations et l'attention du monde entier avaient déjà ébranlé la ville bien avant son occupation actuelle par les forces fédérales de la police de l'immigration, ICE. J'ai voulu comprendre ce qui était nouveau pour lui cette fois-ci. En 2020, je pouvais donner rendez-vous à qui je voulais dans un bar ou un café, discuter puis aller manifester, organiser un événement. Maintenant, ICE a infiltré les groupes de conversation sur Signal. Le chaos, c'est qu'on ne sait pas qui est ICE, où est-ce qu'ils ont pris résidence, ni comment ils ont infiltré les cercles de résistance. Bref, on ne sait plus à qui faire confiance. Depuis que René Good a été tué le 7 janvier 2026, les tactiques de ICE ont eu le temps de muter. Il y a encore les gars masqués en habits de camouflage. D'autres ont compris que le meilleur camouflage en milieu urbain, ce sont des parkas, des casquettes de baseball, des voitures civiles. En infiltrant les groupes de conversation que les voisinages se créent pour s'aider les uns les autres, il devient difficile de distinguer une offre de soutien d'un guet-apens. Ce sont là des tactiques policières classiques. J'ai écrit sur la manière dont le FBI des années 1970 avait infiltré les Black Panthers pour y semer la zizanie et planter une taupe pour organiser l'assassinat de leur leader charismatique de Chicago, Fred Hampton. Ce que ça veut dire en 2026, c'est que vous voyez un inconnu qui fait monter la pression dans une conversation de groupe, sème la discorde, et vous vous demandez si ce n'est pas ICE. De quoi devenir parano? Malgré ses tentatives de miner les liens de confiance, une autre ligne rouge a été franchie depuis qu'Alex Pretty, infirmier américain de 37 ans, a été tué en pleine rue par ICE le 24 janvier 2026. La population continue de résister à l'occupation. Certains des organisateurs commencent à prendre des détours lorsqu'ils se déplacent, de peur d'être suivis. On évite les lieux publics, on protège les informations que l'on fait circuler. On trouve des moyens de continuer à se faire confiance, de mieux savoir qui est qui. L'autre élément du chaos dont Toussaint me parle, c'est l'impulsivité. Les agents de ICE sont formés en 8 semaines. Ils sont, pour ainsi dire, non formés. Si quelqu'un a envie d'aller semer la terreur dans les États démocrates, on lui donne les armes pratiquement en un claquement de doigts. Sur le terrain, il n'y a pas de tactique policière apprise. Sur les images de la mort d'Alex Pretty, on voit une gang de gars qui agissent au feeling. Ce n'est pas basé sur un sens pratique ou même logique, explique Toussaint. S'ils sentent le besoin de tirer un citoyen, de toute évidence, ils peuvent le faire et se sentir justifiés de l'avoir fait. L'impulsivité, en plus des tactiques d'infiltration et de désinformation, crée le chaos qui profite à ICE et plus largement au gouvernement Trump. Je crois que notre propre classe politique aurait intérêt à apprendre de l'expérience de résistance des gens de Minneapolis. Je m'explique. Récemment, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, disait sur Fox News que Donald Trump avait eu un appel avec Mark Carney au cours duquel le premier ministre se serait agressivement rétracté sur son discours de Davos. Il n'en a pas fallu davantage pour que les journalistes de la colline demandent si c'était vrai. Carney a démenti. Michael Chong, porte-parole conservateur aux affaires étrangères, a remarqué, à raison, que le premier ministre aurait mieux fait de publier de lui-même un résumé de sa discussion avec Trump. Une pratique jadis courante qui nous éviterait d'avoir à écouter Fox News. Il a aussi rajouté « Tout ce que je sais maintenant, c'est qu'il y a deux versions des événements. » Sur les réseaux sociaux, plusieurs influenceurs conservateurs ont fait feu de tout bois. Le sujet du jour, Carney dit-il une chose en privé et une autre en public? Ment-il? Peut-on lui faire confiance? Vous pourriez penser que je viens de sauter du coq à l'âne, mais non. C'est une tactique policière classique que de s'insérer dans une discussion pour y diffuser de la fausse information qui mène à la zizanie et mine les liens de confiance. C'est aussi ainsi que la CIA a historiquement contribué à déstabiliser des gouvernements jugés hostiles aux intérêts américains. La Maison-Blanche ment tous les jours. Washington ment en pleine face à la population américaine sur les circonstances dans lesquelles Alex Pretty a été tué, alors que la scène a été captée sur caméra. La même semaine, la Maison-Blanche donne sa version des faits sur ce qu'a dit Mark Carney hors caméra, et des élus de l'opposition et des commentateurs canadiens croient possible que la Maison-Blanche dise cette fois la vérité. C'est surréel. Le scandale est amplifié en ligne par des influenceurs de droite que les algorithmes, contrôlés par des milliardaires américains, récompensent. Voyez comment, entre Minneapolis et le Canada, les problèmes sont similaires, même si ce n'est bien sûr pas à la même échelle. On a perdu le contrôle de notre group chat. Des gens y pèsent lourd pour semer des doutes et nourrir la discorde. On ne sait pas d'où ils sortent. Et quand la zizanie décrédibilise nos institutions, Washington gagne. Couplé à l'impulsivité de Trump en politique étrangère, tout aussi basé sur le feeling que les actions d'une gang d'agents de ICE, la tactique du chaos peut aussi nous miner de ce côté-ci de la frontière. Le premier ministre, surtout dans un tel contexte, gagnerait à faire preuve de plus de transparence. Quant à nous tous, journalistes, élus et simples électeurs, nous aurions avantage à perdre en candeur. Il va nous falloir, nous aussi, savoir en qui et en quoi avoir confiance et s'en montrer soi-même particulièrement digne. C'était « Semer la discorde », un texte d'Émilie Nicolas paru le 29 janvier 2026 dans Le Devoir.
Spaghetti, cafetin, compas et yodel, un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 11 décembre 2025 dans La Presse. La cuisine italienne. Pour certains, c'est de la bouffe, mais pour d'autres, c'est un art de vivre. Et c'est pour cette raison que la cuisine italienne vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, parmi une quarantaine d'autres traditions du monde entier. Plus qu'une simple assiette de spaghettis, la cuisine italienne est un moyen de se rapprocher de la famille et de la communauté, avec des moments partagés autour de la table, explique l'UNESCO, qui souligne aussi la transmission de ce savoir-faire. C'est la 20e fois que l'Italie est inscrite à la précieuse liste, les précédents intronisés étant l'art du piazzolo napolitain, 2017, et la récolte de la truffe, 2021. Les Italiens peuvent bien se vanter. Le cafetan marocain. Voilà qui ne devrait pas améliorer les relations déjà tendues entre le Maroc et l'Algérie. les deux pays revendiquaient l'origine du caftan, vêtement traditionnel richement décoré, porté lors de fêtes et de rites de passage, comme les mariages et les baptêmes. Mais c'est finalement le Maroc qui a remporté la course. Le site Info 360 soulignant au passage l'échec retentissant de l'Algérie, accusée d'avoir manœuvré pour contrer la candidature marocaine. Les deux pays sont en brouille depuis des années à cause du Sahara occidental, région contrôlée par le Maroc, mais revendiquée par des indépendantistes soutenus par l'Algérie. Diwali, ou la fête des Lumières, en Inde. C'est une des célébrations les plus importantes de l'hindouisme, mais aussi du sikhisme et du jaïnisme. Elle est soulignée par des millions de personnes dans le monde, mais surtout en Inde, où le pays s'illumine de feux d'artifice, de lampes, de bougies et autres pétards pendant 5 jours. Symbole du triomphe du bien sur le mal, Diwali ou Dipavali, la fête indienne des Lumières, rejoint à son tour la liste de l'UNESCO. Beau cadeau pour le très nationaliste premier ministre indien Narendra Modi, qui n'a pas manqué de saluer le choix de cette fête qui constitue l'âme de la civilisation de son pays. Ne pas confondre avec la Diwaniya, espace où les hommes de tous âges se réunissent pour parler et échanger des idées au Koweït, aussi reconnu mercredi par l'UNESCO. Leçon cubain. Benny Moré, Campe Segundo et les autres papis du Buena Vista Social Club peuvent crier victoire. Le son cubain est désormais reconnu par l'UNESCO parce qu'il renforce la transmission orale et la culture populaire. Né à la fin du 19e siècle, ce genre musical dansant n'a pas volé cet honneur puisqu'il a largement influencé la musique latino-américaine du siècle suivant, donnant naissance au mambo et au cha-cha-cha dans les années 1940-1950, puis à la salsa dans les années 1960. Parmi d'autres musiques inscrites mercredi par l'UNESCO se trouvent le High Life ghanéen, le compas haïtien, le yoropo vénézuélien, le sarawia péruvien et le tas-piki malgache. Le yodel. Mise sur pied en 2008, la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO comprend plus de 800 traditions ou pratiques culturelles issues de 155 pays. Un indispensable travail de sauvegarde qui permet de consacrer des traditions parfois vivantes, parfois précaires et menacées de disparition. Dans le passé, l'organisation a notamment reconnu la capoeira brésilienne, 2014, le flamenco espagnol, 2010, la baguette française, 2022, le savon d'Alep et le saké japonais, 2025. La Suisse a réussi jeudi à faire inscrire le yodel, tradition montagnarde et favori de nos parties de bureau du temps des fêtes, à ce précieux inventaire. C'était Spaghetti, caftan, compas et yodel, un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 11 décembre 2025 dans la presse.
Ozempic peut-il traiter d'autres problèmes que l'obésité? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 janvier 2026 dans la presse. Les agonistes du GLP-1, comme Ozempic, Wegovy et Mounjaro, promettent une perte de poids spectaculaire en produisant une sensation de satiété. Des médecins estiment qu'ils pourraient être aussi utiles pour des maladies non liées à l'obésité. Les cardiopathies. En 2025, deux études ont montré que les agonistes du GLP-1, ces molécules qui imitent une hormone gastro-intestinale ralentissant la digestion et produisant une sensation de satiété, diminue certains risques cardiovasculaires, même chez les patients ayant un poids normal. Ces résultats ont enthousiasmé Atul Verma et Abhinav Sharma, chercheurs au Centre universitaire de santé McGill. Cusum. Il semble avoir des effets cardiovasculaires bénéfiques indépendants de l'obésité, dit le Dr Verma, directeur de la cardiologie au Cusum, qui travaille à une étude sur la possibilité que les agonistes du GLP-1 réduisent le risque de fibrillation auriculaire. Il y a une baisse de la pression artérielle ainsi qu'une amélioration au niveau du cholestérol et du fonctionnement des vaisseaux sanguins. Nous ne comprenons pas exactement les mécanismes en cause, mais ça semble lié à une diminution de l'inflammation. Le Dr Sharma, de l'Institut de recherche du Cusum, IR Cusum, qui travaille sur le même projet, note que d'autres études semblent montrer une réduction du risque de crise cardiaque indépendamment du poids. Les agonistes du GLP-1 ont été au départ utilisés chez les diabétiques parce qu'ils stimulent la production d'insuline, une hormone qui facilite le passage du sucre du sang vers les cellules. Comme les diabétiques perdaient du poids grâce à ces molécules, elles ont ensuite été approuvées pour traiter l'obésité. Psychiatrie. Chez les diabétiques qui en prennent, ils semblaient avoir moins de démence, explique Simon Ducharme, neuropsychiatre au Cusum. Mais en décembre dernier, une étude internationale, EVOKE, a conclu que le médicament avait des effets très limités, ce qui a sonné le glas des espoirs quant à l'effet des agonistes du GLP-1 pour contrer la démence. Je pense que c'est la fin des efforts pour utiliser les agonistes pour les troubles cognitifs, dit le Dr Ducharme, qui faisait partie d'EVOKE. Par contre, il y a beaucoup d'intérêt pour s'en servir afin de traiter d'autres troubles psychiatriques, ajoute-t-il. Il y a des études en cours pour vérifier leur effet sur les dépendances et même la dépression et les maladies bipolaires. On y songe aussi pour les troubles de l'humeur, mais c'est un peu plus une partie de pêche. Certains patients pourraient par contre avoir des problèmes liés à leur effet sur la satiété, observe le Dr Ducharme. C'était un souci potentiel pour leur utilisation contre la démence, parce que les patients sont souvent frêles et ne doivent pas prendre davantage de poids et de masse musculaire. De plus, il pourrait être problématique pour les gens ayant eu des troubles alimentaires. La perte de poids pourrait les faire retomber dans le cercle vicieux de la compulsion alimentaire, souligne le chercheur. Reins et foie. Autre développement plus positif, en décembre 2025, Santé Canada a approuvé l'utilisation du Wegovy pour traiter la stéohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, MASH, M-A-S-H. Il s'agit du premier traitement pour ce trouble du foie qui touche plus d'un Canadien sur 20 et peut mener à la cirrhose, selon Giada Sebastiani, hépatologue à l'IR Cusum. Le quart des patients ayant une MASH, M-A-S-H, ne sont pas obèses, indique le Dr Sebastiani. Des données dévoilées à la réunion annuelle de l'Association américaine pour l'étude du foie ont démontré qu'une partie de l'effet positif sur le foie ne passe pas par la perte du poids, note-t-elle. Les troubles du rein pourraient aussi bénéficier de l'aide des agonistes du GLP-1. En 2024, une étude publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine a montré des effets bénéfiques chez des diabétiques ayant des problèmes de rein, note le Dr Sharma. Je pense que dans un premier temps, on pourrait utiliser les agonistes du GLP-1 pour le syndrome cardio-rénal métabolique, CKM, précise-t-il, soulignant qu'il traite des patients ayant ce problème à la clinique cardio-métabolique qu'il dirige. Est-ce que les problèmes de rein chez les patients non obèses pourraient aussi être visés? Ces médicaments semblent avoir des effets anti-inflammatoires qui dépassent la simple perte de poids, dit Babak Orandi, chirurgien de l'Université de New York, spécialiste des greffes chez les personnes obèses. Le Dr Orandi a publié en 2025 deux études montrant des effets bénéfiques de ces molécules sur les diabétiques ayant des problèmes graves de rein, effet qui ne dépendait pas du poids du patient. L'une d'elles, publiée dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology, montrait que chez les diabétiques sous dialyse, la mortalité baissait du quart. L'autre, publiée dans le Lancet Diabetes Endocrinology, concluait que la mortalité baissait du tiers après une greffe de rein. Les bénéfices des agonistes pour les troubles du rein ne dépendent pas du poids du patient, confirme Catherine Tuttle de l'Université de Washington, spécialiste des comorbidités rein-diabète. Elle vient de publier dans Nature Review Nephrology une revue de la littérature où elle avance que ces médicaments pourraient diminuer la mortalité cardiovasculaire et générale chez les patients sous dialyse. L'exemple des statines. L'engouement pour les agonistes du GLP-1 peut être comparé à celui pour les statines il y a 20 ans, selon tous les chercheurs interviewés. Les statines sont des médicaments anti-cholestérol qui, au début du millénaire, étaient présumés avoir des effets au-delà du cholestérol, notamment pour les cardiopathies, les troubles cognitifs et le cancer. Finalement, ces effets ne se sont pas confirmés. Le docteur Atul Verma, directeur de la cardiologie au CUSUM, affirme « Je pense que les preuves pour les agonistes du GLP-1 sont plus fortes que pour les statines il y a 20 ans. » Thomas Eschenhagen, chercheur de l'Université de Hambourg, en Allemagne, en est moins sûr. Selon son analyse des résultats des études, au niveau des cardiopathies, les données montrent que la majorité des effets sont associés à la perte de poids, dit-il. Il avait publié en 2021 une étude montrant les effets des statines sur d'autres problèmes que ceux liés au cholestérol dans la revue Circulation. Selon M. Eschenhagen, les statines ont été présentées comme des médicaments miracles juste avant la fin de l'exclusivité des brevets. C'est la situation dans laquelle se trouvent actuellement les agonistes du GLP-1. Je ne pense pas que c'est un hasard, note-t-il. Les détenteurs de brevets auraient intérêt à maximiser les ventes de leurs médicaments avant la fin de leur période d'exclusivité. Par la suite, il n'y a généralement plus assez d'argent pour faire de nouvelles études afin de trouver de nouvelles applications. Incidemment, une étude publiée en décembre 2025 dans les Annals of Internal Medicine a conclu que les agonistes du GLP-1 ne diminuent pas le risque de cancer lié à l'obésité. C'était Ozempic peut-il traiter d'autres problèmes que l'obésité? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 janvier 2026 dans La Presse.